Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du lundi 8 juillet 2024, en direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Suite à la création d'une confédération des États du Sahel, la CEDEAO a prévenu hier que la région risque la désintégration. Au Kenya, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche à Nairobi pour un concert après les récentes manifestations meurtrières. En France, les législatives de dimanche ont placé l'alliance des partis de gauche en tête, mais aucun bloc n'obtient la majorité absolue. Dans notre parti magazine, naissance de la Confédération des États du Sahel et l'avenir de la CEDEAO.
Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples. Une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. La CEDEAO, réunie en sommet, a prévenu dimanche que la région risquait la désintégration après la création par les régimes militaires du Niger, du Mali et du Burkina d'une confédération. L'organisation ouest-africaine souhaite le retour des trois pays dans ses rangs. Mouamadou Oumfa.
Nous devons tout faire pour éviter le retrait des trois pays frères de la CEDEAO. Ce serait le pire des scénarios et une grande blessure au panafricanisme que les pères fondateurs nous ont légué, a déclaré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, qui a appelé à engager les réformes idoines pour adapter la CEDEAO aux réalités de son temps. Une rupture va aggraver l'insécurité et entraver l'établissement d'une force régionale, a expliqué le chef de la commission de la CEDEAO, Omar Aliou Touré. En dehors des nombreuses menaces liées à la paix et à la sécurité, ainsi que les défis liés à la pauvreté, notre région est également confrontée au risque de désintégration, s'est-il alarmé. Les dirigeants du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont annoncé samedi à Niamey la formation d'une confédération des États sahéliens, leur premier sommet organisé la veille de celui de la CEDEAO, qu'ils ont pris la décision de quitter plus tôt cette année. Les mesures que prendra le bloc ouest-africain face à la création de la confédération par les trois pays n'étaient pas connues à l'issue de son sommet organisé à Abuja, la capitale du Nigeria. Mais Omar Touré a prévenu que les trois pays risquaient l'isolement diplomatique et politique et la perte des millions d'euros en investissement. Leurs ressortissants pourraient également devoir obtenir des visas pour voyager dans la région, a-t-il dit.
Le départ des soldats américains de la base de Niamey au Niger est terminé et sera suivi d'ici le 15 septembre par celui des forces basées à Agadez dans le nord. Conformément aux exigences du régime militaire au pouvoir, ont annoncé les deux pays dimanche soir. Au total, 766 militaires américains ont quitté le Niger à ce jour, a été annoncé lors d'une cérémonie à la base militaire de Niamey en présence du colonel Maman Sani Kiaou, chef d'état-major de l'armée de terre du Niger et du général Kenneth Ekman. Du département américain de la défense, les forces américaines au Niger étaient estimées à 950 éléments au total. Le premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a appelé samedi les jeunes à ne pas emprunter la périlleuse route de l'Atlantique vers l'Europe, quelques jours après le naufrage meurtrier d'un bateau de migrants au large de la Mauritanie. Près de 90 migrants partis pour l'Europe ont péri lorsque leur navire a chaviré cette semaine et des dizaines de personnes sont portées disparues dans ce drame. C'est dommage, c'est déplorable. Je lance encore un appel à la jeunesse. Votre solution ne se trouve pas dans les pirogues, a ajouté M. Sonko, s'exprimant devant des centaines de jeunes à l'université Gaston Berger de Saint-Louis dans le Nord. Au Kenya, des centaines de personnes se sont rassemblées dimanche dans la capitale Nairobi pour un concert d'hommage après les manifestations meurtrières contre un projet de budget. Ce projet, qui prévoyait des augmentations de taxes, a finalement été abandonné par le chef de l'État, Gaby Dorsil.
Dimanche, la foule s'est rassemblée à partir de midi dans le parc Uhuru, dans le centre de Nairobi, pour écouter les musiciens et rendre hommage aux morts. La foule a scandé « Ruto doit partir », reprenant une demande formulée par les protestataires ces dernières semaines. Certains brandissaient des drapeaux kényans, d'autres dansaient au son de la musique. « Le combat ne fait que commencer, l'éveil politique ne fait que commencer », a déclaré Hanifa Adan, une figure du mouvement de contestation en marge du concert. Tôt dimanche matin, certains axes de la cité avaient été coupés par la police. Le concert s'est tenu le jour du Sabbat Sabbat, le septième jour du septième mois, qui marque le jour où l'opposition s'est levée en 1990 pour demander le retour du multipartisme et de la démocratie. Le président William Ruto a retiré le texte le 26 juin, au lendemain d'une journée de violence marquée par l'assaut du Parlement par les manifestants. La police avait alors tiré à balles réelles sur la foule. Selon l'agence officielle de protection des droits humains, 39 personnes sont mortes depuis la première manifestation le 18 juin.
La Sierra Leone vient d'interdire le mariage des enfants. Les défenseurs des droits des filles et des femmes applaudissent cette avancée, mais déplorent qu'elle n'aille pas de pair avec l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines. Ces mutilations incluent l'ablation partielle ou totale du clitoris, excision, ou plus largement des organes génitaux externes ou toute autre blessure des organes génitaux. En Sierra Leone, 83% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi de telles mutilations selon une enquête nationale de 2019. Plusieurs milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Tanger en soutien à la cause palestinienne et contre la normalisation avec Israël. Les organisateurs ont choisi Tanger pour protester contre l'escale de début juin d'un nouveau navire de débarquement de la marine israélienne au port de la ville alors qu'il naviguait depuis les États-Unis vers Israël, comme l'avait affirmé le 19 juin un média israélien relayé ensuite par des médias locaux.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En France, les élections législatives dimanche ont placé l'alliance des partis de gauche en tête devant le camp présidentiel d'Emmanuel Macron et l'extrême droite en troisième position. Aucun des blocs n'ayant obtenu la majorité absolue, la nomination du nouveau Premier ministre et le fonctionnement de l'Assemblée nationale s'annoncent complexes. Michel Joseph.
Le RN, Rassemblement National, parti d'extrême droite, entre en force à l'Assemblée nationale avec un nombre historique de députés élus entre 115 et 152, mais reste loin du pouvoir en enregistrant un score décevant par rapport à sa poussée du premier tour. Avec 172 à 215 députés, selon les estimations des instituts de sondage, l'alliance de gauche du NFP, Nouveau Front Populaire, composé de partis en désaccord sur nombre de dossiers, crée la surprise en devenant la première force. Un mois après une dissolution en forme de coup de poker, décidé par Emmanuel Macron, le camp présidentiel fait preuve d'une résilience inattendue avec 150 à 180 élus contre 250 en juin 2022. Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé qu'il remettait ce lundi sa démission au président Emmanuel Macron, précisant qu'il pourrait rester à son poste aussi longtemps que le devoir l'exigera. Le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon, membre du NFP, a estimé que l'alliance de gauche devait gouverner, ajoutant « Notre peuple a clairement écarté la solution du pire, celle de l'extrême droite ». Jordan Bardella, qui visait les fonctions de chef du gouvernement, a dénoncé de son côté une alliance du déshonneur privant les Français d'un gouvernement de redressement. Selon lui, le RN incarne plus que jamais la seule alternance. Le président Emmanuel Macron attendra de connaître la structuration de la nouvelle chambre basse du Parlement pour déterminer qui il va appeler pour devenir Premier ministre, a annoncé dimanche soir l'Élysée.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden s'est rendu hier dimanche dans une église à Philadelphie. Il est allé chercher un peu de réconfort auprès d'une congrégation noire acquise à sa cause, déterminée à ne rien lâcher malgré les appels encore minoritaires d'élus démocrates pour qu'il abandonne la course à la Maison-Blanche. Jean-Roger Billon.
Le président démocrate de 81 ans, lui-même fervent catholique et qui s'appuie sur l'électorat noir, s'est rendu à l'église pentecôtiste de Mount Airy où l'on pouvait le voir fredonner et tapoter sur les genoux au son du gospel. Il n'a fait qu'une référence voilée à la crise qui secoue sa candidature à un second mandat depuis son débat catastrophique face à Donald Trump. « Je sais que je n'ai pas l'air d'avoir que 40 ans, mais j'ai un peu roulé ma bosse », a-t-il lancé dans de brèves remarques, lâchant aussi que chaque chacun d'entre nous est imparfait. Mais nous devons à nouveau unir l'Amérique, c'est mon objectif, c'est ce que nous allons faire, a-t-il dit au cri de 4 ans de plus. Certains élus démocrates sont inquiets par la candidature de M. Biden et accentuent la pression. 5 parlementaires démocrates lui ont déjà demandé, sans ambiguïté, de renoncer à se présenter en novembre. Le chef de la minorité démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, a convoqué une réunion virtuelle des principaux élus du parti afin de discuter de la meilleure façon de procéder.
Le dirigeant hongrois Viktor Orban, proche de la Russie et dont le pays vient de prendre la présidence de l'Union européenne, est arrivé lundi en Chine pour une mission de paix sur le fond de guerre en Ukraine. Cette visite surprise à Pékin intervient après celle controversée à Moscou vendredi où le premier ministre hongrois s'était entretenu avec le président russe Vladimir Poutine à propos de la guerre en Ukraine. À présent, la Minute Éco avec Nathalie Barge.
La société publique de télécommunications Niger Télécom a finalisé la construction de 16 nouveaux sites dans la région de Maradi. L'opérateur affiche un taux de couverture géographique de 52% pour 60% de la population. Le taux de pénétration de la téléphonie mobile et d'Internet dans le pays sont respectivement de 65% et 32%. L'entreprise est en 4e position sur le marché. Airtel, Zamani Télécom et Move Africa contrôlent respectivement 46%, 30% et 18% de la téléphonie mobile. L'autorité de régulation des communications du Botswana a lancé un appel à candidature ouvert jusqu'au 23 août pour attribuer des fréquences supplémentaires aux opérateurs de télécom dans les bandes 700, 2300 et 2600 MHz. Le pays compte 4,4 millions d'abonnés à la téléphonie pour un taux de pénétration de 168%. Le nombre d'utilisateurs Internet mobile est de 2,7 millions. Africa Specialty Risk a ouvert un bureau à Dubaï pour renforcer son portefeuille d'activité au Moyen-Orient. Il propose une couverture pour soutenir les entreprises et investisseurs dans la région. Nous continuons à renforcer notre capacité à faciliter et à réduire les risques du commerce interrégional entre l'Afrique et le Moyen-Orient, a déclaré le PDG d'ASR, Mickey Char.
Place maintenant au sport avec Élisée Oumpatine. Bonjour Élisée.
Oui, bonjour Rosine et bonjour à tous.
Avant de parler football, on évoque d'abord des Jeux Olympiques de Paris dont le coup d'envoi est prévu dans moins de 3 semaines maintenant.
Oui, et le Bénin est représenté par 5 athlètes, à savoir Valentin Winator en judo, Roger Kpade et Eliane Douillet en natation, puis Noélie Yarigo et Didier Kiki en athlétisme. Objectif bien sûr, ramener au pays sa toute première médaille olympique de l'histoire. Et ce sera sans Odile Ahouanou. La triple championne d'Afrique en heptathlon n'a ni obtenu les minima ni un bon classement au ranking. La RDC, qui est aussi à la recherche de sa première médaille, sera présente avec 6 athlètes dans 4 disciplines. La bosse, la natation, le judo et l'athlétisme. Les Jeux, c'est du 26 juillet au 11 août 2024.
En basketball, seul le Soudan du Sud représentera l'Afrique au tournoi masculin des Jeux Olympiques.
Les Sud-Soudanais le doivent grâce à leur performance lors du dernier mondial qui a eu lieu au Japon, en Indonésie et aux Philippines. Le Cameroun, qui était à 2 matchs de valider son ticket, a été défait hier 72-59 par la Lettonie en demi-finale du tournoi de qualification à Rigal.
Football à présent et c'est l'Angola qui remporte la COSAFA Cup.
Les Palancas Negras n'ont pas eu de difficulté pour battre en finale la Namibie sur le score de 5-0. L'Angola remporte au passage sa 4e COSAFA Cup après celle de 1999, 2001 et 2004. Au Niger, c'est l'ASFAN qui remporte la Coupe nationale après avoir réalisé l'essentiel 1-0 en finale devant l'USGN. L'équipe des forces armées succède ainsi à son homologue de la garde nationale pour représenter le pays en Coupe CAF.
La Copa América 2024, le Brésil ne sera pas en demi-finale.
Oui, la Seleção éliminée la nuit dernière par l'Uruguay au tir au but 5-3, 0-0 après le temps réglementaire. Les Uruguayens affronteront la Colombie sans pitié face au Panama 5-0. La première demi-finale opposera l'Argentine au Canada. Et puis, on connaît aussi le dernier carré de l'Euro 2024. France-Espagne demain mardi, puis le lendemain, on aura Angleterre-Pays-Bas.
Merci Élisée.
Le Monde aujourd'hui.
De nouveau avec vous, Rosine Monezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Réunis en sommet le week-end dernier à Niamey au Niger, les autorités militaires du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont signé l'acte constitutif de la Confédération des États du Sahel et se sont engagés à renforcer leur coopération dans plusieurs domaines. La création de cette confédération consacre la rupture définitive entre les trois pays et la CEDEAO, de laquelle ils se sont retirés en janvier 2024. Reportage de notre correspondant à Niamey, Abdulrazak Idrissa.
À l'ouverture déjà, l'hôte du sommet, le général Abdrahmane Tchiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, a donné le ton.
Nos peuples ont irrévocablement tourné le dos à la CEDEAO. Nous appartient aujourd'hui de faire la Confédération Alliance des États Sahel. Une alternative à tout regroupement régional factice en construisant une communauté souveraine des peuples, une communauté éloignée de la mainmise des puissances étrangères.
Les trois États décident ainsi de franchir une nouvelle étape vers leur intégration, toute chose saluée au sein de l'opinion nigérienne. Docteur Amadou Bounti Diallo et Issoufou Boubacar Kado.
C'est une bonne chose puisque une confédération, c'est quoi? C'est une association des États indépendants qui se réunissent, qui délèguent une partie de leurs prérogatives à un organe central pour faire face à certaines difficultés. Actuellement, les pays ont les mêmes problèmes, les pays de l'Iptako, comme on les appelle, l'Iptako Gourma, ont les mêmes difficultés.
Si on se situe dans la perspective panafricaniste, je me dis que c'est un premier pas. Et puis, compte tenu de des éléments qui sont contenus dans la déclaration de Niamey, on se dit que, quelque part, ces gens-là, ils sont rappelés peut-être des motivations des pères des indépendances.
Tout en saluant également l'idée de la création de cette confédération, le journaliste Amadou Traoré Daouda pense que pour qu'elle prospère, des conditions doivent être remplies.
La principale condition, c'est que les trois régimes restent aussi longtemps que possible et font chemin ensemble. Et que même s'ils vont vers des élections, ces régimes, il faut qu'ils aient un chronogramme qui coïncide pour les trois pays. Autrement, si un n'est plus là, c'est pas évident que cette démarche se poursuive.
La Confédération de l'AES se dotera d'instruments propres, une banque notamment pour le financement de sa politique économique et sociale, des mécanismes visant à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des services au sein de l'espace seront également mis en place. Un fait inédit à souligner à l'occasion de la tenue de ce sommet de Niamey pour rejoindre le palais présidentiel. À partir de l'aéroport, le président du Faso et son hôte, le général Abdrahmane Tchiani, ont marché vendredi après-midi sur des kilomètres dans les rues de la capitale au milieu d'une foule enthousiaste. Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique, Niamey.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Tchad, grogne des victimes de l'incendie de la direction de réserve stratégique de l'État, appelée communément poudrière. Trois semaines après l'explosion de dépôts de munitions en plein centre-ville qui a fait d'énormes dégâts, les victimes sont exposées à tous les dangers alors que les autorités d'Ndjamena ont promis de les prendre en charge. André Kodmandigar, correspondant de VOA Afrique, fait le point d'Ndjamena.
Malgré l'annonce du gouvernement sur cet événement malheureux et inattendu, aucun comité officiel n'est descendu sur le terrain pour soutenir et secourir les victimes de l'explosion en cette période difficile.
Mahamat Ounene Isaka, porte-parole du collectif des victimes de l'incendie de la direction de réserve stratégique de l'État. Ceux qui vivaient dans 80% des maisons touchées sont sous la pluie en dépit des promesses faites par les hautes autorités de l'État. Il interpelle au nom de toutes les victimes, le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno.
Monsieur le Président de la République, en début de votre bienveillante déclaration, jusqu'à là, les victimes n'ont bénéficié d'aucune action. À cet égard, nous suggérons une mission d'assistance et d'indemnisation, la prise en charge effective des blessés et traumatisés, la délocalisation du site des armements.
Sortie médiatique soutenue par Franck Nakingar de l'Observatoire des droits et libertés au Tchad.
Ils ont tout à fait raison d'interpeller le gouvernement pour cette situation parce que lorsqu'il est question des stratégies politiques et autres, le gouvernement clame son indépendance, sa souveraineté, mais un État souverain n'arrive pas à gérer une dizaine de victimes et environ 200 personnes sinistrées. Ça, c'est très grave.
Pour le coordonnateur de l'ONG, tournons la page section du Tchad, Ngarassal Sam Jacques, la promesse d'un homme d'État vaut une loi.
Quand les autorités font de telles promesses déjà, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel les autorités doivent s'appuyer là-dessus pour soulager les victimes et après voir avec qui pourra les aider à pouvoir juguler cette crise-là. Mais compter sur les partenaires techniques et financiers pour résoudre un problème du Tchad, où Tchad en lui-même, c'est un pays qui regorge énormément de ressources. Et si nos ressources sont gérées d'une manière bienséante, on n'allait pas arriver là parce que gouverner, c'est prévoir.
Ngarassal Sam Jacques déplore le manque de fonds de sécurité au niveau étatique pour pallier à ce genre de situation.
Dans toute gestion financière, on crée une marge de sécurité dans le budget de l'État qui peuvent juguler à un certain nombre de problèmes. Mais à chaque fois, devant une crise, le premier geste que nous faisions, c'est d'abord tendre la main à la communauté internationale. Tous ces pays qui nous donnent des aides, ils ont aussi leur situation. Alors il serait important à partir de cette crise pour que les autorités soient interpellées des gestions rigoureuses des ressources publiques. Mais sinon, si à chaque fois nous tendons la main, les gens vont nous manquer beaucoup du respect.
Mais selon le chef du gouvernement, Halama Yalina, l'ampleur de cette catastrophe dépasse largement la capacité d'intervention du Tchad. Car le montant global pour la prise en charge effective de toutes ces victimes est estimé à plus de 7 milliards 600 millions de francs CFA.
Nous lançons un appel solennel à la solidarité internationale pour nous aider à surmonter cette épreuve et à répondre aux besoins urgents de nos concitoyens affectés. En ces temps difficiles, le peuple tchadien compte sur votre générosité et votre solidarité.
Reste à savoir si cet appel sera entendu par la communauté internationale qui a certainement d'autres priorités. André Kordoumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Marché conclu dans le rachat de la société pétrolière Assala par l'État gabonais. Coût de l'opération auprès du fonds américain Carlyle, 1,3 milliard de dollars. Alors le succès de cette transition est célébré par les autorités de la transition. Elle suscite des appréhensions au sein d'une frange de la population. Quelques réactions à Libreville avec notre correspondant Ismaël Obiangze.
Marc Ulrich Malekou, une des rares voix contre le rachat par le Gabon du groupe pétrolier Assala. Joint au téléphone, le journaliste estime que cette opération manque de transparence.
Nous salueront quand ils diront clairement où sont passés la part des 18% du pétrole gabonais que siphonnait, volait indûment le plan Bongo. Et quelle est la part de la France dans ce qui reste exactement? Puisque tout ça se passe dans son opacité, on ne veut pas nous dire clairement où sont passés les 18%, nous soutenons un rachat de 5%, résultat des courses, nous ne pouvons pas saluer quelque chose qui fait basculer l'État dans le soupçon d'État très sévère.
Après négociation en février dernier, le nouveau pouvoir gabonais a fait valoir son droit de préemption sur le rachat d'Assala au détriment de la société française Morel et Prom. Même si les autorités sont restées discrètes sur les détails de la transaction, plusieurs personnalités publiques s'alignent derrière cette décision. Gérard Elanguema, député de l'Assemblée nationale de transition.
Je dois déjà applaudir des deux mains le rachat d'Assala. Sauf mauvaise foi, je précise bien, le président est quelqu'un à applaudir des deux mains.
Toutefois, le deal entre l'État gabonais et le groupe américain suscite des interrogations, voire des inquiétudes au sein de la compagnie pétrolière Assala où plusieurs dizaines de compatriotes sont employés. Va-t-on vers un toilettage des effectifs? La réponse de l'administrateur directeur général Assala Gabon, Marcelin Simbangabi.
On y a racheté les équipements, les biens, mais aussi on a fait aussi le transfert direct des contrats et donc du personnel. Donc il n'y a aucun souci que les gens ne s'inquiètent pas. d'accord, et ils vont continuer leur activité dans Assala, qui désormais sera géré par les Gabonais.
Selon plusieurs analystes, la finalisation de cette vente marque une étape importante dans la restructuration du pétrole gabonais. Elle pourrait avoir des répercussions sur les équilibres économiques et géopolitiques de la région. Il reste maintenant à voir comment la Société nationale Gabon Oil Company va gérer ses nouveaux actifs et quel impact cette acquisition aura sur la production pétrolière du pays sur le court, moyen et long terme. Ismaël Obianze pour VOA Afrique, Libreville.
Dernière tractation en France avant le second tour des législatives. L'appel au sursaut républicain face au Rassemblement national semble avoir été entendu au terme d'un important mouvement de désistement pour faire barrage à l'extrême droite. L'option d'un Rassemblement national sans majorité absolue mais avec majorité relative est l'un des scénarios désormais sur la table. Mais le RN comme première force dans l'hémicycle inquiète toujours. Le reportage de notre correspondante Elham Lecoeur à Paris.
C'est un revers inattendu pour le Rassemblement national. Le nouveau Front populaire, Alliance de gauche, est désormais la première force politique française. Un soulagement pour Bachir, électricien franco-algérien.
De voir cette réaction et le Front populaire, la gauche qui revient à ce niveau-là, honnêtement, ça me rassure énormément. Le Front populaire, c'est une alliance. Après la politique, ils ébrouilleront, enfin, on va voir après ce que ça va donner. Mais déjà que le RN ne soit pas en tête, c'est déjà quelque chose.
Un retournement de situation dans les urnes, alors que l'extrême droite était aux portes du pouvoir. Le RN et ses alliés arrivent même en troisième position derrière la coalition présidentielle Ensemble. Une victoire du barrage républicain dont se félicite Pierre, militant de gauche qui a activement participé à la campagne.
Je fais partie des nombreux Français qui se sont mobilisés ces dernières semaines pour faire campagne pour éviter l'extrême droite au pouvoir. On entend beaucoup la bêtise de gens qui disent c'est les seuls qu'on n'a pas essayé. Moi j'ai le sentiment que la France les a déjà essayés en 40. En 40, la collaboration avec les nazis. Je pense qu'il y a une libération. Et d'ailleurs, le racisme comme l'antisémitisme, je pense que les deux, de toute façon, ont toujours été de pair. C'est Frantz Fanon qui disait à des Africains, quand vous entendez dire du mal d'un juif, sachez que ça s'adresse à vous aussi.
Le nouveau Front populaire, grand vainqueur de ces législatives, sans pour autant être en mesure d'obtenir une majorité absolue. Les prochaines semaines s'annoncent donc mouvementées. Il va falloir former une coalition capable de gouverner, un défi inédit pour une France qui s'apprête à vivre une nouvelle forme de cohabitation. Un avenir incertain qui inquiète Yvonne, retraitée.
J'espère qu'on ne va pas vers le chaos et que chacun y mettra du sien pour l'harmonie de la France que j'aime tant.
Une chose est sûre, les Français ont exprimé en masse leur rejet de l'extrême droite. Et la participation, encore plus élevée qu'au premier tour, n'a pas flanché. Près de 7 électeurs sur 10 sont allés voter ce dimanche, du jamais vu depuis 1981. Elham Lecoeur pour VOA Afrique, Paris.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Hey.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Mounet-Zello, à la mise en onde, Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.